Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. France Télé ne peut plus se passer d'elle et on comprend pourquoi. Elle est confondante de naturel, spirituel, cultivée, positive. Ses réparties font toujours mouche. Elle est dans l'empathie, mais avec du tempérament. Bref, sa nature décomplexée nous fait du bien. Agathe Le Caron, c'est le boss. Voilà, la chef de bande et l'ami dont on rêve. Du lundi au samedi, dès 9h25, elle infuse son énergie aux matinées de la 2 avec, en semaine, la maison des maternelles. Et le samedi, bel et bien. Agathe, en fait, a piloté cette saison Masterchef et nous propose bientôt en prime sur France 3, Chemin de Traverse, un concept très attendu sur les chemins de vie des stars. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Agathe dessine les collections de sa marque pour enfants baptisée Ronron, marque qui fait d'ailleurs un carton en ligne. Elle fait la confidente avec sa série de podcasts baptisée Ex et dédiée aux histoires d'amour inattendues et euphorisantes. Et elle incarne bien sûr le magazine en kiosque Les Maternelles, dont le troisième numéro vient de sortir. Bon, avec tout ça, Agathe Le Caron, j'essaye de reprendre un peu mon souffle. Il vous reste du temps pour quoi ? Est-ce qu'il vous reste du temps pour vivre ?
J'essaye, je me suis toujours bien débrouillée quand même pour me réserver des plages. C'est vrai que quand je vous entends, je me dis c'est peut-être un petit peu trop, surtout que ce qu'on n'a pas...
J'ai pas dit ça. Hein.
Non mais moi je me le dis, mais je me demande s'il n'y a quand même pas quelque chose de psychanalytique là-dedans, parce que... Mais il y a quand même les deux enfants aussi à caser.
Le mari.
Et le mari, et c'est quand même ce qui est le plus important. Mais j'arrive pour le moment, il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans l'engrenage, mais j'arrive quand même pas trop mal à me débrouiller, je suis assez fière de moi.
Mais alors, en préparant cette émission, je suis tombée sur une interview que vous aviez donnée il y a 15 ans au journal belge Le Soir, vous déclariez... Dans ce métier, il faut toujours anticiper. À 33 ans, il faut déjà envisager une reconversion potentielle. Donc, Agathe Le Caron, si à 33 ans, vous avez décrit la carrière qui est la vôtre aujourd'hui, jamais vous ne l'auriez cru.
Jamais, parce qu'en plus j'ai eu de longues années de galère quand même. Et justement, à cet âge-là, vers 33 ans, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire et j'étais pas à ma place. Et donc, effectivement, j'ai toujours eu un coup d'avance et je me suis toujours dit, j'avais une telle envie de faire ce métier et de durer dans ce métier, c'était mon rêve d'enfant, que je me disais, bon, voilà, en attendant, si jamais ça marche pas, il faudra peut-être que je fasse du théâtre, je vais faire des voix.
Des plans B.
Voilà, des plans B, tout le temps, pour me sécuriser.
Et à cette époque, donc il y a une quinzaine d'années, vous déclariez aussi, je crois sincèrement, que l'essence même de ce métier, c'est la radio. Parce que le contact avec les gens y est direct, puisqu'on ne se préoccupe pas de l'image. Alors sans doute, faites-vous de la télé comme on fait de la radio, c'est pour ça que ça marche.
Exactement, mais vous ne croyez pas si bien dire, je dis tout le temps, les maternelles, ça doit se consommer, et les émissions du matin en général, ça doit se consommer comme une émission de radio. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est formidable dans le fait d'être en direct dans les maternelles, parce qu'on pourrait se dire, ça ne se justifie pas, ce n'est pas de l'actu vraiment pure et dure. Mais si, parce qu'en fait, on enrobe quand même tout ça de l'actualité, de ce qui se passe. Il fait beau, je dis, vous rendez compte, on est de super bonne humeur, il fait beau. Et en fait, le diable est dans les détails. Et ce genre de petites choses plaisent beaucoup aux téléspectateurs. Et moi, c'est vrai que le direct, ça rend spontané, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est moderne d'être naturel à la télévision, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Mais oui, mais alors, être naturel à la télé, justement, je reprends la phrase, bon, c'est se donner à voir sans trop se regarder. C'est pas si simple, ça prend du temps d'oser être soi, sans filtre, sincèrement,
tellement,
avec ses humeurs.
C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai démarré, moi, je n'avais pas assez confiance en moi pour me dire, tiens, je suis assez bien pour me présenter au monde tel que je suis. C'est-à-dire que c'est pas des choses que je me disais, mais enfin, inconsciemment, je me disais, je suis nulle, quoi, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez cultivée, donc je vais mettre plutôt des coquetteries de langage, je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre, comme ça je serai aimée. Je savais pas si je valais le coup d'être aimée telle que j'étais vraiment. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à tomber les armes et à enlever tous ces parasites et à arrêter de m'écouter, arrêter de me regarder, que j'ai vraiment été à ma place, que tout à coup je suis arrivée sur le service public, qu'on m'a mise à ma juste place, je crois, avec les bonnes personnes et dans les bonnes émissions.
Mais alors, quelle est la première émission de télé, justement, qui vous a laissé sortir du cadre des conventions, puis qui vous a permis d'apparaître telle que vous êtes dans la vie vraie ?
C'est-à-dire, c'est dès que je suis arrivée sur le service public, dans On n'est pas que des cobayes, qui était une émission
sur la 5,
scientifique, qui était vraiment extra. Où là, tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il ne me parle jamais de mon stylisme, il ne me parle jamais de mon maquillage, pas assez d'ailleurs.
Et mais il me parle de mes réparties,
mais
de mes traits d'humour.
Voilà. Mais surtout, il me laisse faire, et il ne me coupe pas. Donc ça, c'était vraiment génial. C'était un changement incroyable. Il y a une liberté. On le dit pas très souvent, mais sur le service public, par rapport à toutes les chaînes que j'ai faites, et Dieu sait que j'en ai fait, il y a une liberté folle.
Bon, jamais vous avez été coupé, mais c'est aussi parce que vous avez tellement d'humour et comme ça fait mouche chaque fois.
Chou, enfin, non, non, parfois quand même, c'est pas super, Isabelle.
Agathe Le Caron, le premier chapitre de votre carrière télé s'est déroulé en Belgique.
Oui.
Ça a duré presque 10 ans. Nous, les Français, on a le sentiment que les Belges ont beaucoup plus de fantaisie, de lâcher prise et de liberté. C'est vrai ou bien nous, les Français, on enjolive ?
Mais c'est curieux parce que, je dirais que la Belgique en général, ce qui m'a séduit le plus, c'est que, et je disais tout le temps, c'est la dernière terre de liberté. On arrivait là-bas, on avait l'impression que c'était un joyeux bordel organisé. Et ça, je trouvais ça formidable. C'est un peu comme l'architecture de Bruxelles, où tout à coup, on a une rue qui est vraiment pas jolie. Et juste après, on n'a que des maisons art déco sublimes et tout. Donc, c'est vraiment, c'est très symbolique de ce qu'est la Belgique, je trouve, dans sa culture. Un joyeux bordel. Après, les Français ont une place et un statut un peu particulier là-bas. Parce que comme les Belges ont les chaînes françaises depuis toujours, et que donc, ils voient qu'on se fout de leur gueule, il faut le dire, depuis des années, et ce qui n'est absolument pas justifié.
D'accord.
Il y a une espèce d'attraction-répulsion pour les Français.
D'accord.
Donc, moi, je n'arrivais pas à trouver ma place là-bas, ni dans mon humour, ni... Alors, ils m'ont toujours fait travailler. Et donc, en ça, je ne vais pas cracher dans la main qui m'a nourri, parce que c'est eux qui m'ont appris mon métier. Mais, mine de rien, je n'arrivais jamais vraiment, quand même, à réussir totalement dans ce que je voulais faire.
À vous exprimer. Ouais. Mais tout de même, on ne reste pas 10 ans dans un pays qu'on n'adore pas.
Bien sûr, j'ai adoré. Puis j'ai eu là-bas aussi de grandes histoires d'amour aussi. Donc j'ai eu une vie personnelle qui faisait que je n'avais pas envie de repartir. Et puis mine de rien, quand même, j'ai construit beaucoup de choses là-bas. Je travaillais sur RTL TVI, qui est la chaîne francophone par excellence. Donc non, j'étais heureuse. Mais il y a un moment, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'étais allée au bout. Et puis c'est même quelqu'un d'RTL qui m'a dit, tu sais quoi, rentre chez toi. C'est un peu dur, mais c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
Oui, mais alors, là, on parle du bout de l'aventure.
Oui.
Moi, je voudrais revenir sur la genèse, parce que pourquoi, Agathe Le Caron, étiez-vous partie en Belgique après avoir passé une maîtrise en langues étrangères à la Sorbonne ? En fait, vous rêviez de quoi à Bruxelles ?
Je me souviens, j'ai passé mon oral de maîtrise, et puis je me suis dit, et maintenant quoi ? Parce que est-ce que je vais passer mon CAPES et être prof ? Ou est-ce que je vais aller au bout de mon rêve et de ma vocation, qui est celle de faire du théâtre ou de faire de la télé ? Et de la radio surtout, parce que j'étais très habitée par l'envie de faire de la radio. Et j'avais l'impression qu'en France, je ne sais pas pourquoi, c'était impossible. On ajoute à ça un divorce de mes parents, donc sur le tard, je dirais qu'ils se bataillaient un peu mon âme. Et ouais, vraiment une grande errance, quoi. J'étais tombée amoureuse d'un jeune Bruxellois, mais en même temps, on n'était plus ensemble. Et donc, je me disais, bah, si je partais à Bruxelles, peut-être que là, personne ne va me regarder, quoi. Je pourrais faire un peu ce dont j'ai envie. Et donc, j'ai commencé à envoyer des CV un petit peu au hasard. Et puis, je me suis dit, tiens, Énergie cherche des commerciaux. Donc, la radio, pourquoi pas, vu que c'est français.
Mais là, ce n'était pas la radio devant le micro.
Pas la radio devant le micro.
Voilà.
Il s'agissait de vendre de la pub dans des magasins de déco en local à Bruxelles, sachant que j'avais pas la culture belge, que je parlais pas flamand. Et que donc
vous avez été une piètre commerciale.
Mais c'est au-delà. C'est-à-dire que je ne vendais rien. Et c'est bien parce que je pense que le patron à l'époque était un petit peu amoureux de moi, que j'ai réussi à rester là. Mais c'était vraiment n'importe quoi.
Mais alors, cette vocation pour la télé, pour la radio, c'est une vocation avouée ou secrète ?
Ah non, totalement avouée. Mais alors là, mais ça faisait beaucoup peur à mes parents que je fasse ce métier. Parce qu'évidemment, à l'époque, moi, j'avais jamais entendu parler d'une école de radio ou de télé. Je ne savais pas par quelle boule prendre.
Généralement,
quoi.
Ça se fait sur le terrain. Hein,
mais bien sûr.
Cette expérience.
Et donc, j'envoyais des CV. Je me souviens, j'avais fait un casting filmé pour Ardisson qui était totalement ridicule, par exemple. Donc, j'espérais à chaque fois, j'avais aucune réponse ou des réponses négatives. Au bout d'un moment, me dire, tiens, au moins, je vais être dans ce milieu-là. Peut-être que je vais y arriver. Et très vite, j'ai commencé à faire des voix parce qu'ils trouvaient que je faisais bien la sorcière, que j'imitais bien des personnages. Donc, ils se sont dit, tiens, on va la prendre pour faire des voix de pub. Et ça a commencé comme ça.
Mais quelle animatrice, ou pourquoi pas quel animateur, vous rêviez de remplacer quand vous aviez 15 ans, par exemple ?
Mais il n'y a pas tellement de modèles féminins, hein, quand j'avais 15 ans, moi, dans les années 80.
De présentatrices, très peu.
Non, très peu. Je veux dire, il y avait Pépita dans Pyramide qui apportait les cadeaux. Non, mais c'est fou. J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps.
La grande brune de la roue de la fortune.
Exactement, pour tourner la roue. Donc, c'était quand même pas formidable. Non, moi, je rêvais de remplacer Jean-Pierre Foucault, de présenter Sacré Soirée. Ça, c'était un rêve absolu. Michel Drucker, tous ces grand show des années 80-90.
Et on va l'évoquer tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez, pour le retour de Sacrée Soirée, formé un duo avec Jean-Pierre Foucault. Mais Agathe Le Caron, Quand vous avez fait vos tout premiers pas sur un plateau de téléachat, donc en Belgique, aux côtés du fils de Pierre Bellemare...
C'était Pierre Bellemare lui-même. Alors, on a beaucoup dit que c'était son fils.
Mais c'était Pierre Bellemare lui-même. Pierre
Alors, là,
la légende.
La légende Pierre Bellemare, qui m'a beaucoup appris, qui avait monté une chaîne de téléachat 24h sur 24. Donc, ça veut dire qu'il y avait du téléachat 24h sur 24 sur sa chaîne. Et on était en direct. Donc, c'était fou. Et en plus, on réalisait nous-mêmes les émissions. Donc, c'était une école absolument formidable. Et il était venu, en fait, faire son casting dans les radios belges parce qu'il considérait que les animateurs radio étaient ceux qui étaient les mieux armés pour faire du téléachat. Et moi, j'étais pas animatrice. Donc, je vendais toujours mes petites pubs difficilement. Et je suis allée au-delà de ma timidité et je lui ai dit, écoutez Pierre, est-ce que je peux juste passer le casting parce que c'est mon rêve de faire ça. Et j'ai été embauchée. Non, j'étais trop contente.
Et votre papa, publicitaire, il a réagi comment ?
Et mon père m'a dit cette phrase, il m'a dit, surtout ne sois pas trop bonne, sinon tu risques de faire ça 20 ans.
Bon, on sait de qui vous tenez donc le sens de la répartie. Absolument génial, bravo papa. Agathe Le Caron, ce goût des autres que vous manifestez en télé depuis le début de votre carrière... Est-il dû au fait que, bon, en plus de votre nature, bien sûr, est-il dû au fait que vous étiez une enfant unique, dont les parents travaillaient beaucoup, donc une enfant unique qui aspirait à du lien et très curieuse du monde extérieur ?
C'est vrai que j'étais très seule, j'étais une petite fille très seule, donc je pense que ça me vient du fait que finalement, j'avais pas grand-chose à faire d'autre que d'observer. Et j'étais surtout très très timide, mais maladivement timide.
Donc, on a du mal à l'imaginer. Hein.
Oui, alors j'ai trouvé quelque chose pour m'en sortir. Voilà, mais
alors là, c'est quoi la recette ?
Je pense que l'humour, ça a été mon arme de construction massive. Voilà, c'est-à-dire que j'ai tout eu grâce à mon humour et il vient du fait qu'à un moment, je me suis dit soit je continue à être timide et je vais être empêchée toute ma vie, soit j'essaye de trouver une arme, quelque chose qui va faire que je vais pouvoir me présenter au monde d'une façon aimable. Et j'ai pris ce pli-là. Enfin, en tout cas, je pense que rétrospectivement, c'est comme ça que je me suis construite. Mais je suis toujours très timide, même si ça ne se voit pas.
Vous êtes une enfant de la télé qui a grandi devant les écrans, donc.
Oui, parce que mes parents m'avaient offert très tôt, trop tôt d'ailleurs, vu les recommandations actuelles, une télé et je l'avais dans ma chambre.
Ça ne vous a pas desservi, hein, franchement.
Bon. On va dire qu'en tout cas, ça m'a aidé à choisir mon métier, quoi.
Voilà, mais vous étiez très très douée pour imaginer devant l'écran justement des interviews de stars beaucoup plus originales que celles qui s'y déroulaient, non ?
Oui, c'est-à-dire que j'avais mon petit magnétophone et à l'époque je faisais semblant d'interviewer les stars de l'époque, Vanessa Paradis, Ophélie Winter, mais je faisais à la fois l'intervieweuse et la réponse. Donc après, parfois je prenais le micro, je chantais un petit Vanessa Paradis, enfin voilà, je faisais tous les métiers sur mon magnétophone.
Bon, la télé, elle vous a poursuivi en fait jusqu'à la Sorbonne, puisque ça c'est fabuleux, ça ne s'invente pas. Le sujet de votre mémoire de maîtrise à la Sorbonne était sur le statut des femmes dans les soap-opéras américains.
Oui, alors il m'avait dit, mais c'est un super sujet. Je dis, ah bon ? Parce que moi j'avais choisi ça pour vraiment faire un truc qui allait me plaire et en faire le moins possible. Très grosse erreur, parce qu'en fait, un mémoire de maîtrise, en gros, on vous demande d'aller regarder ce qui a déjà été écrit sur le sujet et puis d'en faire une thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Rien n'a jamais été écrit sur les soap-opéras américains, donc c'était très compliqué. Donc je me suis tapé des caisses de Feu de l'amour et d'Amour, gloire et beauté.
De Dallas, de Dynastie.
Ah, voilà. Et c'était très marrant parce que ma soutenance, je parlais de Bobby Ewing, de J.R. Ewing et tout. Donc c'était complètement lunaire. Mais il m'avait dit que c'était assez intéressant. Finalement, au bout du compte, je me suis pas mal débrouillée.
Voilà, c'est cohérent avec ce que vous alliez devenir. Mais alors, vos conclusions, justement, sur ce mémoire de maîtrise. Parce que pour une féministe en herbe, il y avait de la matière à brasser.
Il y avait de la matière à brasser, surtout dans ces... Alors, c'est assez marrant parce que ce que je retiens, je me souviens plus bien de ce que j'avais écrit, mais en fait, dans les soap-opéras, il y a toujours une histoire de rédemption pour les femmes, ce qui n'est pas du tout pour les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont toujours été des garces avant, où elles arrivent au début, etc. C'est vraiment... elles sont atroces, etc. Elles trompent leur mec. Et puis, au bout d'un moment, il y a une rédemption et elles deviennent parfaites. Parfois même, elles vont dans les ordres.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est pour les auteurs une façon de se faire pardonner.
Exactement. Hein,
du rôle qu'ils leur donnent dès le départ du scénar. Bon, vous trouvez que 25 ans plus tard, ça a changé dans les soap-opéras américains ou
alors,
pas ?
Je ne regarde plus trop les soap-opéras.
Le
non, j'ai plus... Non, enfin, en tout cas, je pense que ce genre-là quand même un petit peu vieilli. Hein. Mais je ne sais pas, ça serait intéressant d'ailleurs de regarder un peu Amour, gloire et beauté pour voir si les femmes sont fortes maintenant dans... Enfin, en tout cas, si elles sont fortes, elles sont généralement méchantes. Est-ce qu'elles sont fortes et gentilles ? Ça, je ne sais pas.
Forte et gentille, c'est vous.
Ah, bah vous êtes gentil. Bon, c'est vous qui êtes gentil.
Agathe Le Caron, une maîtrise de langue étrangère, ça mène parfois à des choses inattendues. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué comment, en fait, en Belgique, en y allant au culot, vous avez réussi à passer un casting qui, finalement, vous a permis, sur un plateau télé, de présenter des émissions de téléachat en compagnie de Pierre Bellemare. Donc, pendant 10 ans, en Belgique, on vous a vu un peu partout sur des plateaux de télé, ce qui ne vous empêchait pas de faire énormément de casting. En fait... vous étiez déjà celle qu'on aime aujourd'hui, drôle, nature, vive, concernée, mais les émissions que vous rêviez de présenter, vous ne les décrochiez pas. Pourquoi la sauce ne prenait pas ?
Mais pour être très honnête, je ne pense pas que j'étais celle que je suis aujourd'hui. J'étais au contraire, trop artificielle en fait. J'étais tellement pas à ma place que j'essayais d'être quelqu'un d'autre. D'abord, j'essayais d'être un peu comme les filles qui marchaient bien à l'époque. Donc c'était des filles super belles, généralement qui avaient été Miss Belgique, qui avaient des coifures particulièrement. Bon, moi, en vrai, j'ai les cheveux frisés, donc je me les rédissais vers l'avant. J'avais une frange, j'étais horrible. Après, j'ai essayé d'être plutôt rousse, c'était immonde. Après, je me maquillais trop, j'étais trop sexy, ça me ressemblait pas du tout en fait. Moi, ma nature propre. Vous savez, par exemple, dans mon métier, ce qui m'ennuie le plus, c'est le maquillage et la coiffure. Il y a plein d'animatrices qui en rêvent, mais alors moi, je dois les prendre sur moi, j'ai aucune patience. Et donc, j'essaie de me construire un personnage, et c'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est sûr. Ça marche pas, en fait. On peut pas mentir à la télévision, les téléspectateurs le voient.
Ça fonctionne quand enfin on est dans le lâcher-prise.
Bien sûr, quand on est soi, quoi.
Donc, l'un de vos patrons en Belgique vous a dit cette phrase qui semble cruelle, mais qui finalement était une plutôt bonne idée. Rentre en France.
Oui.
En France, effectivement, vous avez fait vos valises, vous êtes revenu pour rejoindre la chaîne TMC.
Oui.
Et ensuite, pour former un duo avec Jean-Pierre Foucault pour le retour de l'émission de légende Sacrée Soirée sur TF1. Alors, sur le papier, ça, c'était magique.
Mon rêve.
Dans la réalité, ça a été un petit peu différent.
Ben forcément, c'est toujours comme ça, de toute façon. Alors, c'est vrai que moi, ce qui était rigolo, c'est que quand j'avais 14 ans, ma mère devait connaître un caméraman, je me souviens plus bien, de Sacrée Soirée. Donc, j'allais dans le public quasiment tous les mercredis. Ça me faisait rêver. Et je voyais, pendant les pubs, j'observais Jean-Pierre Foucault avec son mini-ventilateur. Et je me disais, oh là là, si j'avais le courage d'aller le voir et tout ça. Et puis là, je me retrouve à côté de lui, dans cette émission en direct. J'avais jamais fait d'émission en direct. C'est TF1, enfin, c'était... Oh. Et Jean-Pierre, je pense qu'il n'a pas l'habitude de co-animer. Je pense que j'étais pas encore celle que j'étais aujourd'hui, donc j'étais pas bonne, honnêtement. Et effectivement, j'ai eu un accueil un petit peu froid, mais à sa décharge, je pense que c'est parce qu'il est hyper professionnel et qu'il s'est dit, mais qui est-ce qu'on m'a foutu dans les pattes, quoi ? Il s'est dit, mais c'est quoi cette petite nana belge qui est pas bonne, quoi ?
Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a toujours cru, d'ailleurs les médias vous présentaient ainsi, que vous étiez une Belge qui venait de faire la télé en France, alors que c'est exactement l'inverse, quoi.
Mais c'est surtout que les chaînes me disaient, tu veux pas qu'on dise que t'es belge, parce que c'était un peu à la mode avec Virginie Efira et tout.
D'accord.
Ça faisait bien d'être belge, mais non, pas du tout, je suis parisienne, donc moi je disais pas non, hein. De toute façon, je trouvais que c'était plutôt valorisant d'être belge.
Virginie Efira, qui est l'une de vos meilleures amies, que vous avez rencontrée d'ailleurs à Bruxelles.
On a démarré ensemble, oui, on a démarré sur RTL TVI toutes les deux. Et c'est marrant parce qu'on avait un petit peu le même syndrome. Alors quand on voit où elle est aujourd'hui, c'est encore plus rigolo qu'avec moi. C'est-à-dire que c'est quand même la plus grande actrice française aujourd'hui.
Ouais.
Et on lui disait, non, mais tu comprends, t'es pas populaire. Non, je pense que ça marchera jamais. Non, vraiment, sois réaliste, Virginie. Puis moi, j'avais un petit peu la même chose. Donc on allait noyer notre chagrin dans le vin blanc le soir et on se racontait
surtout
nos vies.
Surtout qu'il y a d'excellents bistrots à Bruxelles.
Oh là oui.
Voilà, redoutable. Mais enfin, c'est fou le nombre de gens qu'il faudrait balayer dans ce métier quand même. Hein, oiseaux de mauvais augure.
En tout cas, qui n'ont pas de vision, il y en a quelques-uns. Oui.
Il y en a pas mal. Alors, je continue de dérouler le fil, Agathe Le Caron. M6, vous avez fait les yeux doux.
Oui.
M6, sur lequel vous avez présenté d'ailleurs la deuxième saison de Top Chef. Et puis ensuite, vous avez décidé de rejoindre la 5. En fait, il ne faut pas avoir peur d'avoir la bougeotte en télé.
Ben oui, parce que là, pour le coup, je commençais à mûrir un peu. Et je me disais, tiens, c'est marrant. Autant j'adore Top Chef. Quand je l'ai présenté, j'ai passé un super bon moment. Mais je me disais, là quand même, je ne sers à rien. Donc il faut mettre un petit peu de sens. Et c'est une période où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier au fond ? Parce que je suis en train de m'accrocher désespérément un rêve de petite fille, mais est-ce que je suis assez bonne ? Parce que je trouvais toujours que je me faisais vachement critiquer, mais même en Belgique, c'était dur, quoi. C'était le début des réseaux sociaux et j'avais des trucs, mais d'une méchanceté. Et à l'époque, aujourd'hui, ça roule un peu sur moi, mais à l'époque, ça me blessait, mais j'en dormais pas de la nuit. Je vois cette sensation que j'avais de déchirement à l'estomac, là, dans le ventre. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dit à ce point que je suis moche, que je présente mal? C'était vraiment ultra violent. Hein. Et en fait, à un moment, je me suis dit, peut-être que je suis pas à ma place. C'est la première fois. Je me suis dit, peut-être que c'est pas ce que je dois faire, quoi. Peut-être pas arrêter ce métier, mais en tout cas faire d'autres choses. Et puis, il se trouve que France 5 est venue me draguer, entre guillemets, un peu pour un pilote qui faisait. Je me dis, bon, bah, essayons. Puis je me suis sentie tout de suite, oui, bien. Je me suis dit, ah, tiens, bah, effectivement, on s'occupe du contenu et un petit peu moins de ce à quoi je ressemble pour la première fois. Et ça m'a donné envie d'aller voir. Et puis France 5, c'était quand même la chaîne la plus, c'était la plus chic, quoi. C'est chic, quoi. Je travaillais sur France 5, je me disais, bon, la chaîne de la connaissance, c'est chouette, quoi. et puis, je sais pas, j'ai noué tout de suite des relations très saines avec mes patrons. Je me suis sentie écoutée, respectée. Et on a arrêté de m'infantiliser, surtout. C'est vrai que pendant des années, mais là, je viens de le réaliser en vous parlant, je me disais, j'ai été infantilisée en permanence. Quand on va chez son patron et qu'on vous dit « Non, non, mais tu vois, toi, tu n'es pas assez populaire. Toi, tu devrais rentrer chez toi. Laisse-moi choisir, quoi. Laisse-moi décider qui je suis, où je vais, etc. » Et là, pour le coup, j'étais d'égal à égal et ça a toujours été comme ça, jusqu'à aujourd'hui.
Agathe Le Caron, l'émission emblématique qui vous a révélée il y a 6 ans est, en France, hein, sur la télé française, Les Maternelles, émission au concept unique en télé. J'ai envie de dire qui aide les mères à devenir mères. Et émission que vous présentez désormais en quotidienne sur France 2 chaque matin dès 9h25. Or, vous dites, parler des enfants est un prétexte pour parler de la façon d'être au monde.
Exactement. C'est-à-dire que je trouve que c'est une émission qui parle de notre état d'être humain. Et effectivement, les enfants, c'est le biais qu'on a choisi parce que c'est peut-être ce qui nous préoccupe le plus, ce qui nous déchire le plus. Mais finalement, c'est une émission qui est presque politique. On parle de la société à travers le prisme des enfants, on parle du statut de la femme, on parle de nos émotions. Parce que c'est vrai que la maternité, enfin, au moment de la maternité, se joue l'égalité. Homme-femme, enfin femme-homme, se joue la femme ou l'homme qu'on va devenir après. Enfin, je veux dire, il y a tellement de changements.
Et puis donc, l'éducation voilà. Dépend des cultures.
Bien sûr.
Et puis de cette société en marche. Donc il y a plein d'injonctions qui deviennent obsolètes et qu'on écoutait il y a encore 10 ans.
C'est une matière qui est en mouvement, c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a des modes. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des modes liés à la parentalité. Je pensais que si je parlais d'allaitement en 2014, en 2022, c'était exactement les mêmes recommandations. Ben non, mais pour tout, tout change tout le temps, d'année en année. Donc c'est très intéressant parce que ça change au gré des découvertes scientifiques, des évolutions de la société, de l'influence d'autres sociétés. Donc c'est vraiment un sujet passionnant et c'est bien pour ça que ça fait 7 ans que je présente cette émission.
Élever un enfant permet de découvrir en fait qui réellement on est bien au-delà des modes d'éducation parce que c'est aussi une mise en abîme.
C'est une mise en abîme et je dis souvent c'est une naissance mais c'est aussi la renaissance de ce qu'on est. C'est-à-dire que et puis surtout ça nous force, on est obligé là de faire tomber les armes. Moi c'est un grand sujet dans ma vie parce que comme j'étais très timide et que je me suis toujours sentie en décalage avec mes petits copains à l'école, avec mes petits copains tout court, avec le monde qui m'entoure. Faire tomber tout ça, ça a été très difficile pour moi. Or, c'est comme d'abord beaucoup plus moins fatigant parce que ça demande une énergie de se présenter au monde comme tel qu'on n'est pas vraiment au fond. Que voilà. Et mes enfants m'ont forcé à descendre d'une marche parce que j'étais un peu trop excitée, j'étais un peu trop dans la démonstration, je parlais un petit peu trop de moi, quoi. Mais c'était de la maladresse que je trouve mignonne, hein, rétrospectivement, c'est parce que j'étais mal dans ma peau. Mais mes enfants m'ont aidée à trouver, ça fait très cliché, mais je sais qui je suis vraiment de façon très profonde et archaïque, je dirais même grâce à eux.
Et viscérale.
Et viscérale,
alors,
voilà.
Agathe Le Caron, il paraît que vous étiez enceinte de 8 mois de votre second fils lorsque vous avez tourné le pilote de la Maison des Maternelles, c'est vrai ?
C'est vrai, et donc je pense que ça m'a aidée quand même parce que la chaîne a dû se dire « Ah tiens, elle a quand même le physique de l'emploi !» Parce que j'avais quand même ce gros ventre. En plus, surtout, j'étais baignée de ces sujets-là. J'avais eu mon premier enfant 2 ans avant.
Bien sûr.
Et c'est vrai que...
Mais devenir maman à 40 ans, c'était un choix ou bien c'est la vie qui a choisi pour vous ?
Non, c'est la vie qui a choisi pour moi. Ça passait par une rencontre, c'est-à-dire que j'avais pas rencontré... En fait, j'ai eu une grosse histoire d'amour, une période de, à la période charnière, c'est-à-dire entre 28 et 30 ans, qui s'est mal terminée. C'est normalement là qu'on fait des enfants. Et puis moi, ça s'est pas très bien terminé. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, affectivement, et tout. Ça a été une histoire très difficile. Et puis après, j'ai rencontré mon mari tard, à 38 ans. Et donc, on s'est dit, bon, bah voilà, lui, il avait 42 ans. On s'est dit, on voudrait bien faire un enfant, mais il faut le faire très vite. Et j'ai eu de la chance, ça marche.
C'est de rencontrer le bon père.
Et exactement. Voilà. Et que ça marche. J'ai eu du bol.
Alors, revenons à la maison des maternelles, chaque matin sur France 2. On pourrait se dire que les mères, aujourd'hui, trouvent les réponses à leurs questions sur Internet. Oui. Mais non.
Bah non.
Mais non, puisque les maternelles sont un programme interactif qui est absolument essentiel.
C'est l'émission, alors c'est une des émissions, je dirais, de service public pur et dur. C'est-à-dire que là, c'est une émission d'utilité publique. D'abord parce qu'on fait passer des messages de santé qui sont parfois cruciaux. Parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, des familles isolées. Et puis aussi des pères hein, qui élèvent leurs enfants tout seuls, qui sont dans des déserts médicaux, qui n'ont pas accès à ces informations, qui vont aller sur Internet, comme vous le dites fort justement, et qui ne vont pas avoir la parole. Et puis d'abord, c'est un bordel sur Internet. On ne sait pas s'y retrouver. Des injonctions dans tous les sens. Là, au moins, on a les plus grands spécialistes triés sur le volet. A priori, si on vous donne un conseil, c'est qu'on peut le suivre, quoi.
Il est certainement plus difficile d'élever un enfant aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Agathe.
C'est plus difficile parce que, pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, on parlait d'injonctions, on en a plein. Alors, on en a de l'entourage, ça, j'imagine que ça a toujours existé, mais là, on en a des médias. Et puis aussi parce qu'on a, avec les réseaux sociaux, accès à beaucoup plus d'histoires atroces. Et quand on est comme moi un petit peu angoissé, on a l'impression, par exemple, qu'un kidnapping, ça va arriver tous les jours. Moi, dès que je vois pas mon enfant 2 minutes à côté de moi, je me dis, ça y est, il a été kidnappé. Or, je pense qu'à l'époque de ma mère, d'ailleurs j'en suis sûre, parce que j'allais à l'école toute seule en CE2 ou même en CP, elle ne se posait pas toutes ces questions parce qu'on n'a pas accès à ça. Or, si on réfléchit bien, ça n'arrive pas en fait. Ça arrive, mais je veux dire, c'est une fois tous les combien de temps un kidnapping d'enfant. Donc, on est dans une société de fous.
Voilà, pourtant, le stress est là. Stress est là.
C'est horrible.
Et puis, on parle d'enfants pour les maternelles, mais aujourd'hui, dès l'âge de 10 ans, parfois 9 ans, les enfants sont déjà des ados.
Les enfants dès l'âge de 9 ans sont déjà des ados. En tout cas, j'ai lu une étude déjà accès pour la plupart. Je crois que c'est un enfant sur deux, c'est terrible, de moins de 11 ans a déjà eu accès à une image porno
avec
son portable. Enfin, oui, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on est sur un champ de mine, quoi. Et en même temps, c'est le monde dans lequel ils sont là aujourd'hui et il faut faire avec. Donc, il faut arriver à trouver le juste curseur, le juste milieu avec tout ça.
Alors, quand vous avez repris les rênes de l'émission Les Maternelles, Agathe Le Caron, on surfait encore sur la vague de l'éducation positive qui repose sur un dialogue constant avec l'enfant, comme s'il était un interlocuteur mature. Mmh. Or, vous dites que vous avez vu les bornes de cette éducation positive avec vos enfants, avec vos fils.
En fait, c'est l'éducation positive, sur le papier, on se dit c'est super. Et en fait, c'est encore une injonction supplémentaire, si on réfléchit bien. Parce que c'est très culpabilisant quand on n'y arrive pas. On vous dit c'est formidable, vous mettez à la hauteur de l'enfant. L'enfant est roi, donc finalement, il a le droit d'avoir une opinion.
On ne le punit pas, on ne crée pas de limites, on le responsabilise.
Absolument, l'autonomie, ça c'est super. Il a une opinion propre et on la respecte. Mais en fait, il y a des enfants avec lesquels ça ne marche pas. Et moi, je l'ai vécu avec le grand, ça va encore, quoique. Mais le petit, il a besoin d'être cadré. Il a besoin, en fait, pour lui, c'était extrêmement angoissant que je le laisse décider. Et je me suis dit à un moment, mais écoute-toi, à force de suivre ces injonctions-là. Et je suis devenue un petit peu cinglée, parce que je pense que comme j'avais un jour quelqu'un qui me disait, il faut surtout pas punir un enfant, le lendemain, il y avait, on essayait quand même d'avoir toutes les voix sur le plateau, quelqu'un qui était au contraire, qui disait, il faut punir. Et en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai pas arrêté de le dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je disais, mais les gars, écoutez-vous, essayez de retrouver votre petite voix intérieure.
C'est-à-dire qu'on fait son marché dans cette émission incroyablement riche avec les meilleurs experts, mais surtout, on n'oublie pas son instinct.
Mais
son instinct de mère aimante.
Et puis avec ce qu'on fait, soit sa propre éducation, effectivement son instinct, comme vous dites, et puis son enfant surtout. Enfant n'est pas l'autre, Dieu merci, ils ont des aspérités, des caractères propres.
Et puis on n'élève pas un enfant en ville, par exemple, comme on l'élève à la campagne.
Absolument.
Enfin, il y a 1000 paramètres. Et puis, dans les maternelles, vous n'oubliez pas les pères.
Et j'oublie pas les pères, alors on dit souvent les nouveaux pères, parce que c'est vrai qu'ils s'impliquent un petit peu plus dans leur parentalité, et ça c'est vachement bien. Donc effectivement, oui, on essaye d'en parler le plus possible, mais on est quand même toujours beaucoup regardé par les femmes, ça c'est sûr, beaucoup plus regardé par les femmes.
Alors, juste avant de faire une pause, Agathe Le Caron, la finale de Masterchef, elle a eu lieu il y a quelques jours sur France 2. Masterchef, dont vous avez pris les commandes 7 ans après son arrêt sur TF1. Vous tirez quel bilan de cette renaissance de Masterchef ?
Alors, moi, j'ai adoré faire Masterchef. C'est-à-dire que j'ai pris un plaisir fou à porter cette marque qui est légendaire, qui marche dans le monde entier, etc. Après, j'aurais préféré, évidemment,
Il faut que je dise aux auditeurs que vous êtes incroyablement légitime. Parce que pour avoir eu le plaisir de dîner un soir chez vous, mais vous ne pouvez pas imaginer comme elle est douée devant les fourneaux.
C'est vrai que j'avais assuré.
Elle avait assuré grave. Donc voilà.
Mais c'est parce que vous étiez invitée d'honneur.
Bien sûr. Donc, oui. Masterchef.
Alors moi, je suis très friande de ces émissions. Donc c'est vrai que j'ai adoré faire ça. Mais bon, bah voilà, j'aurais aimé que ça marche un petit peu mieux, évidemment. Voilà, je pense qu'on aurait dû peut-être la diffuser au moment où on avait besoin d'être entouré, cocooné, peut-être en automne, en hiver, je ne sais pas. Voilà.
Mais alors, est-ce que l'émission reviendra la saison prochaine ?
Pour le moment, je ne sais pas. Je sais qu'ils en discutent, ils sont en pourparler, mais je n'ai pas l'information. Moi, j'en rêve, je vous le dis franchement, parce que je trouve que cette émission est légitime sur le service public, dans ce qu'elle a de partage, de transmission, etc. Voilà.
Chère Agathe Le Caron, reparlons de télé. Rarement, télé et pas que d'ailleurs, rarement dans cette émission, j'ai eu un invité menant de fond autant d'activités différentes et parallèles. Bon, la télévision, j'ai envie de dire, n'est presque, j'exagère à peine, hein, que la face visible de l'iceberg. Parce que, par exemple, vous dirigez votre propre ligne de vêtements pour enfants, baptisée Ronron et vendue en ligne. C'est vous qui dessinez toutes les collections ?
Alors, j'ai une associée avec qui d'ailleurs, juste avant de venir vous voir, j'étais avec elle, on préparait les collections d'hiver et d'été prochain. Donc, à toutes les deux, voilà. Mais oui, je dessine. C'est un bien grand mot, mais j'imagine, voilà. J'imagine, je dis, en fait, je suis un petit peu inspecteur des travaux finis, je dis ce que je voudrais et puis après je dis oui, non, en fonction des prototypes qu'on m'envoie.
Mais comment a démarré l'aventure ? Parce que c'est un autre monde, celui de la fabrication de vêtements. Il faut dealer avec des usines, il faut distribuer, il faut gérer des stocks.
C'est une logistique de folie. En fait, c'est parti d'une peur, donc c'est pas très romantique, c'est que j'avais peur que la télé s'arrête. Et je me suis dit, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, toujours avoir un plan B. Et là, je me dis, est-ce que vraiment, quand j'aurai 50 ans, je pourrais continuer à faire de la télé et de la radio, même si je continue à faire des voix et tout, je ne sais pas. Donc je me disais, il faut faire quelque chose de totalement différent. Et ça m'a toujours beaucoup séduite de m'essayer à d'autres métiers. Et je me suis dit, je vais dessiner une petite ligne de vêtements pour enfants, puisque moi, j'avais plein de trucs à reprocher à ce que j'avais mis à bébé à l'époque. Et puis, j'ai dessiné ça comme une enfant de 7 ans. J'ai appelé une copine qui faisait des vêtements. Elle m'a présenté quelqu'un dans le sentier qui, elle-même, m'a dit, vous y connaissez rien, ça va être très compliqué. Je voulais pas faire fabriquer en Chine. Donc, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui peut vous aider, parce qu'elle travaillait sur une grosse marque avant, et puis elle pourrait vous aider maintenant. Et c'est mon associé aujourd'hui, donc on fait ça toutes les deux.
Bon, les collection de vêtements pour enfants, ça prend du temps. Mais attendez, il y a aussi, Agathe Le Caron, vos séries de podcasts baptisées Ex. Podcast qui fait la part belle aux histoires d'amour inattendues et poignantes. Alors, on les trouve sur quelles plateformes ?
Toutes les plateformes de podcasts. Alors, je suis très fière de ce podcast parce que d'abord, il marche très très bien. Ça fait partie des podcasts natifs, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas issus des radios, qui marchent le mieux. Donc je suis vraiment... parce que ça veut dire que les gens ont envie qu'on leur parle d'amour. Voilà. Et alors je ne fais que le produire, je ne le fabrique pas. Là, je suis aussi un petit peu...
Vous n'êtes pas celle qui raconte
Qui interroge. Non. Et d'ailleurs, moi, j'aime le témoignage brut. J'aime qu'on me raconte des histoires sans la voix de la journaliste. Donc, pauvre Clémentine Delagrange, qui est pourtant formidable, je coupe toutes ces questions. Et je ne pourrais n'avoir que le témoignage et que la voix de la personne qui me raconte son histoire. Voilà.
Mais elle est née comment l'envie de produire des podcasts ?
J'adore les podcasts. En fait, quand j'ai commencé Ronron, je faisais les paquets dans mon sous-sol. Maintenant, on a un logisticien qui s'en occupe, mais à l'époque, et ça me prenait un temps fou.
Et au lieu d'écouter de la musique, vous branchiez des podcasts.
C'était mon vecteur de culture et ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà, j'écoute ça dans ma voiture et donc j'ai eu envie de faire partie de cette aventure parce que ça me fait penser aux radios libres dans les années 80. Je pense que ça va être un vrai média à part entière plus tard. Et j'avais déjà envie de m'inscrire là-dedans. Et puis, je suis folle de témoignages et d'histoires, quoi. Donc, voilà.
Cette question me vient. Vous êtes une hyperactive, hyper épanouie, mais vous vous ennuyez vite. Agathe.
Ben, je crois que je m'ennuie jamais et j'ai gardé ça de la petite fille toute seule que j'étais. J'ai toujours envie de faire un truc. J'ai toujours quelque chose qui m'enthousiasme. Mais ça peut être, tiens, j'ai fabriqué une niche pour mon chat. Hein. Et tiens, si j'allais chez Bricorama, pardon, j'ai fait de la pub, et que j'achetais du bois et des clous pour fabriquer une niche. Et ça, alors, je suis surexcitée. Ou tiens, si j'apprenais la guitare. Généralement, ça dure 2 secondes et demie. Hein. Je me dis, ah ben non, ça fait mal aux doigts, j'arrête.
Ben, attendez, tout ce dont on vient de parler dans cette émission, ça fait quelques années que ça dure. Bon, le bassin d'Arcachon que vous aimez tant, bah, j'imagine que vous n'avez pas le temps dans l'année de voler 3-4 jours pour vous y réfugier.
3-4 jours, non, mais j'essaie d'y aller quand même très souvent. En fait, ce qu'on fait avec mon mari, c'est qu'on regarde les conditions de surf le mercredi.
Ouais.
Et si on nous annonce...
Vous surfez tous les deux ?
On surfe tous les deux, on s'est mis au surf tous les deux. Ça, c'est vraiment alors tard. Hein. Et on n'est pas très bons d'ailleurs, mais on s'en fout. Parce
lequel des deux est le meilleur ?
Ah, ça m'énerve, mais c'est lui. Mais j'espère qu'il n'écoutera pas cette émission parce que... Non, mais vous savez que c'est horrible, je vous fais une confidence. Ça m'énerve qu'il surfe mieux que moi. Vous n'imaginez même pas, je le regarde, je dis, mais comment ça se fait qu'il y arrive mieux? Il est beaucoup plus sportif.
C'est pour ça que vous êtes amoureuse, Agathe.
Ouais, je l'admire énormément.
Bon, la dune du Pila, cet été, elle a été cernée par des incendies effroyables. Le paysage a changé.
Je dirais que c'était, comme m'a dit ma cousine Alix Giraudelin, qui est formidable et qui est connue pour être journaliste dans le L. Elle m'a dit, oh là là, je suis arrivée en bateau chez toi, c'était tristement beau. Et c'était vraiment ça, c'était beau parce que cet endroit est tellement extraordinaire. Et puis tout à coup, il y avait cette espèce de fumée horrible. Et puis nous, on était en face au Cap Ferret, mais on a quand même beaucoup senti les fumées. Non, c'est terrible, c'est monstrueux. Après, ils l'ont beaucoup vécu dans le sud-est aussi. Mais là, c'est très nouveau pour nous. Voilà.
La forêt, elle avait été plantée pour freiner le déplacement de la dune du Pila qui naturellement avance vers les terres. Mais désormais, à cause des incendies, cette forêt, elle a considérablement diminué. Les habitants du bassin d'Arcachon craignent pour l'avenir de la dune du Pila.
Oui, ben ça va forcément bouger avec effectivement, à chaque fois que les racines ont été brûlées des arbres, ça fait reculer la dune. Déjà, elle recule. On a les blockhouse là qui tombent aussi au fur et à mesure. Donc, elle est en mouvement. Donc oui, les habitants craignent. Et puis ça a été très traumatique parce que moi, par exemple, ma mère habite là-bas, mes tantes ont été évacuées. Enfin, ça a été, pour les habitants, ça a été terrible, quoi.
Pour votre nouvelle émission, Agathe Le Caron, l'émission baptisée Chemin de Traverse qui sera diffusée en prime sur France 3, qui allez-vous emmener alors sur la dune du Pila ou dans le bassin d'Arcachon? Marion Cotillard, Pascal Obispo, Laura Smet?
Ah, bah c'est vrai que Laura Smet, elle est tombée amoureuse.
Elle s'est mariée là-bas.
Ah oui, elle vit là-bas, c'est vrai. On a la même prof de yoga, il paraît. Ma prof de yoga me l'a dit. Non, mais c'est vrai que je pourrais emmener les trois, ça serait chouette. Je dirais que Pascal Obispo, il est vraiment... C'est un natif, là, pour le coup. Donc, j'aimerais bien lui proposer. Marion Cotillard aussi, que j'ai croisé de loin et que j'ai acquis à cause de ma timidité. Je n'ai pas osé demander sur le banc d'Arguin cet été de venir, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Et puis Laura Smet, oui, pourquoi pas qu'elle nous partage son amour pour cet endroit.
Alors, Chemin de Traverse, c'est une émission qui nécessite une sacrée logistique parce que, en fait, c'est une grosse production avec un concept ambitieux. Faut nous en dire davantage.
Alors, en fait, on emmène pendant 3 jours en randonnée un artiste et on va sur le chemin de sa vie. C'est exactement ce que vous faites là avec moi. Sauf que, bon, voilà, là, sur le chemin, on va faire des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres du terroir, de l'endroit où on est. Et puis, ça va être aussi des gens qui ont marqué sa vie. En fait, on essaye de comprendre comment d'un point A, c'est-à-dire par exemple Nolwenn, puisqu'on sait qu'on a emmené Nolwenn, petite Nolwenn, avec tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, ça l'a mené de ce point A, petite Nolwenn, à ce point B, Nolwenn adulte aujourd'hui. Et moi, ça me passionne, tout comme vous, Isabelle, parce que je sais que c'est votre passion d'essayer de comprendre les gens et comment est-ce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Et c'est une émission formidable. Et effectivement, comme vous dites, c'est Bénure, parce que c'est énorme à tourner, à produire, mais il n'y a plus beaucoup d'endroits où on a 2 heures avec un artiste.
Oui, ça sera en prime,
exactement,
sur France 3. Vous avez déjà la première date de diffusion parce que le premier numéro accueille Nolwenn Leroy et vous avez tourné le suivant avec Kev Adams.
Eh bien, dites donc, c'est un scoop là, ça vous l'avez sorti. Ben, c'est très bien, je n'avais pas le droit de le dire, mais c'est vous qui l'avez dit, c'est parfait. Ah ben non, mais écoutez, je n'ai pas de problème. oui, effectivement, et j'en rentre en plus. Kev, c'était il y a 2 jours, je suis rentrée il y a 2 jours, donc j'ai encore plein de Kev Adams. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'allais dire en moi, mais pas du tout. tout. mais non, je me suis vraiment imprégnée de lui.
Il faut dire que c'est un joyeux camarade.
Hein, ouais, on s'est bien marré.
J'imagine.
Il a été très généreux. Il s'est beaucoup livré. Et effectivement, ça sera, je pense, vers le mois de novembre et on n'a pas la date encore précise.
Et voilà. Alors, non, mais c'est fou parce qu'on pourrait imaginer qu'on a parlé de toutes les émissions d'Agathe. Mais non. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, Bel et Bien, le samedi matin sur France 2. L'émission holistique qui fait du bien au mental comme au corps, avec laquelle d'ailleurs il est très agréable de démarrer le week-end et de prendre son café. Émission que vous présentez à partir donc de 9h25 sur la 2, le samedi matin, aux côtés d'un garçon épatant, un amour de garçon, Ali Rebéi.
Ouh là là, alors lui, c'est, je ne sais pas, c'est un ange. Hein, c'est vrai, il est très angélique. Alors c'est une émission que j'adore. Vous allez me dire que je dis ça à chaque émission, mais celle-ci, elle est particulière. Vous parliez tout à l'heure des maternelles en disant c'est notre état d'être humain. Alors là, c'est à son paroxysme. C'est-à-dire que c'est le moment, le samedi matin, où on se dit tiens, dans quelle étagère, quoi. Est-ce que je vais bien? Et surtout, comment je peux aller mieux? Et voilà. Là, on a le merveilleux Christophe André et la merveilleuse Sylvie Chocron qui nous donnent des conseils formidables. C'est juste se promener ou respirer. Mais comment le faire? Quand le faire? Là, on a fait les pouvoirs extraordinaires de l'eau samedi dernier. J'aurais pas pensé que prendre un bain froid, ça avait autant de bienfaits. Enfin, tous les samedis, on apprend des choses extraordinaires qui nous rendent mieux. Donc, quel bonheur de présenter cette émission. Voilà.
Agathe, il vous reste du temps pour voir votre meilleure amie, Virginie Efira?
Oh, je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. D'ailleurs, j'y pensais récemment parce qu'en me baladant à Europe 1, on m'a dit « Ah, est-ce qu'on la reçoit bientôt? Est-ce que tu veux bien poser une question pour elle ?» Et je me dis « j'aimerais bien lui poser à elle directement. » Et je pense qu'on va bientôt déjeuner ensemble. Mais ce n'est pas que moi, là, pour le coup, c'est elle. Parce que je pense qu'elle a encore plus besoin d'avoir du temps que moi, tellement elle travaille, c'est fou. Et on s'est changé un SMS, elle me disait le luxe en ce moment, c'est d'avoir une heure. Et je pense que si elle a une heure, elle préfère la passer avec sa fille. mais c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Virginie, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de foudre d'amitié, mais de la même intensité qu'un coup de foudre amoureux. C'est une fille complexe, elle est formidable. Voilà.
Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question, Agathe Le Caron. Que voulez-vous absolument avoir réalisé dans les 5 ans qui viennent?
Alors, absolument, là, j'y arriverai pas, mais je voudrais tellement écrire un film de cinéma. J'avais commencé à écrire un scénario. Ouais.
Mais vous avez déjà écrit un roman, ça, on n'en a pas parlé, ce sera pour une prochaine fois.
Oui.
Mais donc là, écrire un film.
Oui, d'ailleurs, c'était un peu sur le thème du roman, parce que c'est une histoire d'amour, enfin, c'est une rupture très douloureuse. C'est vrai que ça serait vraiment, alors là, pour le coup, un rêve, mais j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Il ne faut pas que je parte comme ça.
Je suis persuadée, la prochaine fois qu'on se parle, devant les micros d'Europe 1, on va parler du film qui va se tourner d'après le scénario que vous aurez signé.
J'adorerais.
Parce que ce qu'Agathe Le Caron veut, se réalise. Alors, pour résumer, dès lundi, on vous retrouve à 9h25 sur France 2 pour la quotidienne de La Maison des Maternelles. Et puis, samedi, à la même heure, pour Bel et Bien. Je vous embrasse, ouais. Agathe.
Moi aussi, merci Isabelle. Je voudrais que ça dure encore 4 heures. Je suis très frustrée.
Chiche, à très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.